Sud Radio. Le grand show de l'info.
Cyril Brioulet.
Bonsoir, bienvenue dans le grand show de l'info. De plus en plus de stations-service sans carburant, 20% des stations sont touchées, une majorité des raffineries est bloquée. Nous irons à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. François Hollande dénonce un blocage décidé par une minorité. Tous les syndicats de l'aviation civile vont rejoindre la grève la semaine prochaine. Et à l'instant, la CGT annonce une grève reconductible chaque jour à la SNCF à partir du 31 mai. René Girma, bonsoir.
Bonsoir Cyril Brioulet.
Vous avez regardé les prix de l'essence, plus cher depuis quelques jours.
Oui, alors l'excuse est que le prix du baril remonte, mais il n'y a pas que cela. Tout le monde y gagne, les compagnies pétrolières, les pompistes et l'État. Ceux qui y perdent, celles et ceux qui ne peuvent plus aller travailler.
6 mois après les attentats de Paris, les familles des victimes sont reçues pendant 3 jours par les juges d'instruction. Elles pourront parler et être écoutées. Des familles se sentent aujourd'hui abandonnées. Sans oublier un monde plus vert, Yolaine Delabigne s'intéresse aujourd'hui aux tatouages dans sa chronique environnement. Comment les enlever et comment avoir un tatouage sans danger pour votre peau. Charles Becbédé, l'invité du Grand Show de l'Info aujourd'hui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'entreprise, conseiller municipal à Paris, vous publiez Charnellement de France, un essai écrit avec Benoît Dumoulin aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Pourquoi Charnellement de France ?
Parce que la France, on en a parfois trop une vision intellectuelle, et alors qu'il faut la faire aimer culturellement aussi et charnellement. Hein. Donc, d'où le titre. C'est aussi un clin d'œil à Peggy qui disait « La République une et indivisible, notre royaume de France ». Puis c'est aussi ce beau livre de Natacha Polony, « Nous sommes la France », où elle disait justement ce que je viens de dire sur le fait qu'il faut l'aimer intellectuellement, culturellement et aussi charnellement.
C'est une réflexion France. Sur notre identité, nos valeurs d'hier, d'aujourd'hui, de demain.
C'est une réflexion sur, en effet, le fait que la France va pas bien, ok, sur les analyses de comment on en est arrivé là. Et puis, c'est aussi des propositions, une solution qui passe par un réenracinement de la République, une refondation de la République, de façon à ce qu'elle s'enracine dans toute son histoire, de façon à ainsi permettre de la faire aimer à tous les Français, y compris ceux qui nous ont rejoints plus récemment et qui n'ont pas eu malheureusement l'occasion de qu'on leur transmette cet amour charnel de la France.
On va y revenir dans un instant. Charles Becbédé, invité aujourd'hui du Grand Show de l'Info. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Cyril Brioulet.
Le Grand Show de l'Info.
Avec aujourd'hui Charles Becbédé pour le livre Charnellement de France aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Le livre débute avec le communiqué de l'État islamique au lendemain des attentats du 13 novembre. La France est selon vous à un tournant de son histoire. Est-ce que vous diriez que notre culture, nos traditions sont aujourd'hui en danger ?
En fait, elles sont en danger, oui, mais c'est en même temps la solution. Parce que moi, je crois que la proclamation incantatoire des valeurs républicaines, ça ne parle pas aux gens. Alors peut-être à une petite partie de la population, une partie, je dirais, un peu élitiste. Et puis, et l'autre solution, donc, c'est de ne rien faire et donc c'est d'aller tranquillement vers le chaos et une sorte de multiculturalisme et le communautarisme. Et ça, je le rejette. Donc, pour moi, c'est la solution. C'est pas le laïcisme ces valeurs républicaines qu'on invoque en permanence qui ne veulent plus rien dire.
Mmh. Manuel Valls s'y refère souvent, d'ailleurs. Il met souvent en avant les valeurs de la République. Ça veut dire quoi, les valeurs aujourd'hui de la République ?
Je vous pose la question. franchement, ok, je connais des grands principes comme la générosité, l'honnêteté, mais les valeurs républicaines, d'accord, c'est la liberté, égalité, fraternité, laïcité, mais ça parle pas, quoi. Donc, oui, c'est vraiment, c'est Valls, oui, qui en parle très souvent, mais on pourrait aussi, il y en a d'autres, hein. C'est aussi ce que dit Marine Le Pen, hein. Vous savez, quand, en 2012, elle disait, il faut interdire toute manifestation de signes religieux dans l'espace public, c'est la folie, c'est utopique. Donc c'est pas ce laïcisme intégral qui va nous sauver. Et bien sûr, c'est pas la solution, c'est pas non plus la situation existante, donc où on s'enfonce progressivement vers le communautarisme qui peut nous satisfaire. Donc il faut trouver autre chose. Et moi je dis, il faut refonder la République. Il faut il faut appliquer le vieux principe. À Rome, fait comme les Romains. Il faut faire aimer nos traditions et notre culture qui est d'une richesse inouïe. Rendre charnelle donc notre République. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans le livre, je propose, alors certains diront c'est un petit gadget sémantique, mais de transformer la République française en République de France.
De France,
pour, pour vraiment bien dire ce que c'est 15 siècles d'histoire inouïe, de richesse. C'est une culture que le monde entier nous envie et qu'il est urgent de faire aimer à tous les Français. Et donc, c'est
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tous les Français n'aiment pas. Ne l'aime pas.
Ben, c'est-à-dire que depuis 40 ans, on a tout fait pour faire désaimer la France. Hein. Donc on est souvent dans la haine de soi, dans la repentance compulsive. On a une vraie crise de la transmission. L'école ne fonctionne plus. Donc malheureusement, il y a du boulot. Et donc c'est tout ça que j'essaye d'expliquer dans ce livre, qui est un livre où il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages. Mais il y a aussi cette touche d'optimisme sur la fin où en fait, il est possible, en refondant la République, de proposer un projet, une vision à tous les Français et de les réconcilier et de leur permettre de vivre en harmonie sans qu'ils perdent leur quelque chose qui est très important pour moi, c'est-à-dire c'est le sentiment religieux. Et parce que certains vont dire, oui, on va interdire le sentiment religieux. Et ça, je pense que c'est une folie.
On va y revenir, mais vous avez dit il y a un instant, la France n'est pas multiculturelle. C'est une réalité, la France est multiculturelle aujourd'hui.
Ben non. Non, elle n'est pas. Il y a bien sûr des...
Vous pensez que non, mais elle est.
Ben non, elle est en train de le devenir, oui, elle est en train de le devenir progressivement si on ne fait rien, si on dit que tout se vaut, que toutes les cultures se valent, mais ça je le récuse parce que je pense qu'on a la chance d'avoir une culture.
Est-ce que vous y voyez un danger quelque part?
Ben oui, parce que si on va vers le multiculturalisme, alors on va vers le communautarisme. Et si on va vers le communautarisme, alors on va vers la guerre civile.
Mais les cultures peuvent cohabiter ensemble.
Les cultures peuvent s'enrichir l'une de l'autre. Donc il y a une culture dominante qui est la culture française et qui est le résultat de 15 siècles de construction avec des racines gréco-latines, germaniques, celtes et avec la chrétienté qui a travaillé ses racines pendant tous ces siècles. Et puis il y a en effet de temps à autre des apports extérieurs à la Renaissance, au 19e siècle, au 20e siècle, depuis 40 ans. Il est clair que l'immigration qui vient d'Afrique du Nord va avoir un apport important à cette culture, mais elle doit d'abord se fondre dans cette culture. Elle ne doit pas imposer une culture qui vient de l'extérieur. C'est pas très poli quand on arrive, d'abord. Et puis ensuite, la majorité des Français ne veut pas de cela.
Donc, on va y revenir tout à l'heure. Charles Becbédé, Charnellement de France, c'est votre nouveau livre. Vous êtes l'invité de Sud Radio jusqu'à 18h. On va parcourir ensemble, comme chaque jour dans cette émission, l'actualité du jour. Et c'est bien sûr, encore une fois aujourd'hui, la pénurie de carburant. Plus les heures passent, plus le nombre de stations-service en rupture partielle ou totale de carburant augmente. 20% des stations sont touchées. La pénurie atteint depuis hier le sud ou l'Île-de-France. Le conflit se durcit. Les 8 raffineries de France sont bloquées, dit la CGT. La police a pourtant débloqué le site pétrolier de Fos-sur-Mer dans la nuit. On rejoint Stéphane Burgat sur place pour Sud Radio. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
La police a mobilisé d'importants moyens pour débloquer la raffinerie la nuit dernière.
Ah oui, imaginez, 200 policiers, CRS et unités de gendarmerie mobile, donc toutes équipées. Hein. Et avec eux, eh bien, tout cet équipement anti-émeute ad hoc, des camions avec grillage de protection anti-projectiles, un camion de CRS projecteur d'eau, un véhicule vraiment impressionnant qu'on voit très peu, qui sert notamment à disperser ces immenses émeutes. On a pu le voir assez récemment dans les images télévisées en Turquie avec son jet d'eau hyper puissant. Mais selon le préfet de police, eh bien, il n'a servi celui-là qu'à éteindre les brasiers des pneumatiques au piquet de grève de Fos-sur-Mer, version qui diffère, vous l'imaginez totalement, avec celle des syndicalistes qui ont dit qu'ils ont été délogés sans sommation au petit matin avec un usage de la force totalement disproportionné. Le préfet, pour sa part, plaide que les forces ont d'abord essuyé des jets de projectiles quand ils sont arrivés et ça a été en fait le point de départ toute la matinée à des affrontements et puis surtout à un jeu du chat et de la souris avec plusieurs blocages un petit peu partout qui ne vont pas durer et finalement un petit jeu du chat et de la souris qui va tourner à la faveur des forces de l'ordre qui ont repris le contrôle du périmètre totalement.
Pour autant, Stéphane, le travail n'a pas repris.
Non, puisque, bon, même si on a pu pouvoir aller très tôt, les camions-citernes se réapprovisionnaient en essence. Hein, on évite donc la panne sèche aux stations-service. On calme aussi l'anxiété des automobilistes pour le moment. On le voit de toute façon avec ces files d'attente qui diminuent vraiment sensiblement aux stations-service. Mais bon, pour le moment, on insiste bien, car si les accès sont libres, avec ce mouvement de grève, on note bien que plus rien ne sort des raffineries. Alors oui, il y a des réserves, il y a beaucoup de réserves dans les dépôts, mais pour durer jusqu'à quand, c'est une question qui reste entière, et c'est ce que nous disent les syndicalistes. Hein, ils nous disent, les forces peuvent briser les points de blocage, ils ne peuvent pas briser la grève, ce que n'entend d'ailleurs pas remettre en question François Hollande, il l'a répété encore ce matin.
Ces militants de la CGT que vous avez rencontrés, Stéphane, ils ne veulent rien lâcher.
Non, absolument. Ils sont vraiment sur une posture. Il faut motiver les troupes, défendre l'image du syndicat de la CGT à un moment donné, de son histoire ou celle du syndicalisme plus généralement, cherche un second souffle. Et si la CGT reste le syndicat vraiment majoritaire, on est loin de la puissance historique de ces troupes, de ces effectifs. Des effectifs, ici, on l'a vu ce matin dans la pétrochimie, qui sont en tout cas vraiment déterminés. Ils nous l'ont dit, même s'ils ont essuyé une cuisante défaite ce matin, ils vont revenir. On va les entendre encore dans le journal de 18h. Mais maintenant, se pose des questions pour eux, quid pour leur action, pour la suite de leur action de blocage, car oui, il y aura des ripostes, ils nous l'ont promis, des opérations coup de poing qui vont venir. Le leader départemental du syndicat l'a promis plusieurs fois dans la journée. Alors oui, mais quoi? Alors il nous a dit qu'il en réservait la primeur à ses camarades, très bien, ou même réponse. Alors la meilleure question, c'est quand? Et cette question reste là aussi en suspens. Les forces de l'ordre quadrillent vraiment le terrain pour éviter toute reprise de position. Les prochains jours vont être vraiment sensibles, on sent qu'on s'épied de part et d'autre, mais il est vraiment difficile d'imaginer une riposte de la CGT ici à très court terme, tant les moyens qui sont mis sur le terrain par les forces de l'ordre sont impressionnants.
Merci beaucoup Stéphane Murgat. Jean-Luc Touly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur du livre « Syndicat, corruption, dérive, trahison » aux éditions First. Un vrai bras de fer est engagé entre le gouvernement et la CGT.
Ah oui, là on peut le dire, avec la grève nationale qui se prépare, jeudi, les avions, la RATP surtout. Effectivement, je crois que la CGT et d'autres syndicats, mais particulièrement la CGT, a trouvé que depuis des mois, les manifestations ne rassemblaient peut-être pas suffisamment de monde pour faire reculer le gouvernement. Et donc là, d'utiliser leur principale force dans les secteurs stratégiques des transports et d'énergie, fait qu'on a plus de poids pour un peu... bloquer un peu l'économie, hein, et donc faire pression plus forte.
Que pensez-vous de cette attitude justement de la CGT? Elle se radicalise, elle joue son va-tout avec ce mouvement?
Le va-tout, je ne sais pas, mais se radicaliser, oui, c'est un changement net avec l'arrivée et surtout la confirmation au poste de secrétaire général de Philippe Martinez il y a quelques semaines. C'est très différent de l'époque de Bernard Thibault, hein, où on était plus dans la négociation, la discussion. Effectivement, est-ce que c'est le fait que la CGT, qui a moins de force qu'auparavant, qui a des résultats aux élections professionnelles, où elle risque de perdre la première place face à la CFDT, est-ce que c'est une posture, est-ce que c'est une stratégie? Il y a certainement de ça, et probablement c'est mêlé à cette impopularité du gouvernement de gauche. D'ailleurs, la CGT avait appelé en 2012
à soutenir François Hollande.
François Hollande, donc, toutes ces contradictions font que la stratégie de la CGT, c'est d'aller peut-être effectivement à un combat beaucoup plus dur. C'est courir un risque à la France et aux Français, hein, parce qu'on est à la veille de l'euro, à la veille du Tour de France, des vacances. Et en même temps, il y a une mobilisation qui commence à grandir. Donc, on ne sait pas où on va aller là.
Qui est dans l'impasse aujourd'hui? C'est Manuel Valls ou c'est la CGT?
Ah, je pense que c'est plus le gouvernement. La CGT, elle prend un risque, c'est sûr, en dramatisant les choses. Est-ce que ça va lui rapporter des voix aux élections professionnelles? Peut-être, ou peut-être pas. Mais c'est pas un risque, en fin de compte, phénoménal. Mais c'est un énorme risque pour le gouvernement. Mais d'une manière générale, c'est un risque pour les Français qui, je pense, trouvent le gouvernement dans une complète impasse. Hein, même l'histoire des salaires des grands patrons qui devait faire l'objet d'une décision gouvernementale où on voit que M. Macron n'est pas d'accord avec M. Valls. Enfin, tout ça, c'est de l'amateurisme et il y a une déstabilisation générale de l'État.
Avec des réactions très fortes, hein. Ce matin, François Hollande dit que le blocage est décidé par une minorité. Le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, rappelle qu'une centrale syndicale ne fait pas la loi. On est ferme, hein, du côté du gouvernement.
Oui, mais est-ce que le gouvernement représente aujourd'hui, même s'il a été élu démocratiquement il y a quelques années, est-ce qu'aujourd'hui il ne représente pas aussi une minorité, hein, que ça soit à gauche ou dans le pays de manière générale? Donc c'est bien ça le problème de l'impasse, c'est que ce sont des syndicats qui sont fragilisés depuis des années, hein, c'est l'objet de mes livres d'ailleurs, ils représentent quoi, 8% de la population active et encore moins dans le privé, et en même temps... ils sont capables quand même de neutraliser dans certains secteurs d'activité l'économie parce que quelque part, il devait imaginer qu'un gouvernement de gauche allait apporter un progrès social et en tout cas n'allait pas d'aller dans le sens trop fortement des objectifs du MEDEF. Donc les gens étaient trompés. Après, ça justifie pas forcément les actes de violence.
De violence, ouais.
Mais ça peut se comprendre. Voilà, il y a une déception qui fait que, effectivement, il y a du jusque-boutisme dans cette histoire dont on ne connaît pas encore la fin, malheureusement.
Ouais. La fin, ça peut être quoi ? C'est le retrait de la loi travail au bout d'un moment. Ça va être la seule solution pour amener le calme en France ?
Je pense que le gouvernement, sans retirer, devrait reprendre les négociations parce que je pense que aucun syndicat, même la CGT, ne souhaite de simplement retirer et puis on parle de plus rien. Non, il faut parler un certain nombre de réformes, peut-être même du code du travail, un certain nombre de choses comme ça. Mais,
donc on met la loi de côté, on reprend les négociations, on renégocie le texte depuis le début.
Sinon, je ne vois pas d'autre solution. Ou alors c'est la solution politique d'une démission et d'un appel aux élections, parce que ça ne peut pas durer encore. Enfin, je vois mal que ça dure encore 12 mois comme ça. Enfin, c'est aux yeux de l'étranger, de l'Europe, et puis de la France, et puis des salariés, de tout le monde. On ne peut pas continuer en refusant de discuter et en chacun gardant ses positions intransigeantes. Ça ne peut pas continuer comme ça, ou sinon on risque peut-être des débordements, peut-être des morts. Vous voyez, alors là, ça prendrait une proportion absolument délirante. Je ne crois pas qu'on est à la veille de mai 68, même si on ne sait jamais. On ne sait jamais, il y a un tel ras-le-bol, mais comment ça peut se déterminer et se tourner, franchement, je crois que personne ne peut le savoir. Et je pense qu'il vaudrait mieux que chacun, et notamment le gouvernement, fasse preuve de sagesse, et sans retirer forcément complètement ce projet de loi, dise « bon, il faut le reprendre, parce que sinon, là, on est dans l'aventure, quoi, et dans les risques, et je pense que c'est pas digne. »
Merci Jean-Luc Touly, auteur de Syndicat, Corruption, Dérive, Trahison, pour sauver le syndicalisme, aux éditions First. On va continuer à parler de ce conflit, de la pénurie de carburant et des blocages dans un instant, avec notre invité aujourd'hui, Charles Info, sur Sud Radio, avec aujourd'hui Charles Becbédé, pour votre nouveau livre, Charnellement de France. On parlait des blocages, du conflit dur qui touche les raffineries avant la pause. Charles Becbédé, quelle peut être, selon vous, l'issue de ce conflit ?
Eh bien, ça va dépendre du courage du gouvernement, parce que je comprends très bien que la CGT ait envie de faire ce bras de fer, et ils ont tous les signaux qui sont au vert pour eux, et ils savent que le gouvernement est extrêmement fragile, que Hollande est aussi très fragile, et donc que ça peut tout à fait se terminer par un retrait pur et simple de la loi, donc ils y vont à fond. Ils savent qu'ils ont une partie de l'opinion publique avec eux. Alors bon, ça ne peut pas durer non plus trop longtemps. Alors côté gouvernement, il faut absolument être hyper ferme. Mais comme on l'a vu dans le passé, c'est un gouvernement qui hésite, qui parfois dit blanc puis fait noir.
Donc le retrait de la loi, ça vous apparaît aujourd'hui comme la seule solution ?
Vous savez, je me souviens très bien du CPE, quand Villepin a voulu flexibiliser un peu le contrat de travail pour les jeunes. Et à la fin... il est allé à Canossa, donc oui, il y a eu retrait. Enfin, en fait, la loi a été votée, puis jamais appliquée. Bon, ça nous pend au nez. Alors moi, cette loi, en fait, moi, j'en voulais pas, surtout dans sa nouvelle mouture. Il n'y a rien dedans, ça n'a aucun intérêt, ça braque tout le monde. Mais finalement, le bras de fer de la CGT me fait penser qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans cette loi que j'ai pas bien vu. Et donc, par principe, moi, je trouve qu'à partir du moment où la représentation nationale à trancher, parce que ce que disait la personne juste avant, là, je ne suis pas d'accord. Il y a eu des élections présidentielles, législatives, donc là, il y a une majorité de gauche. Elle a voté le texte. Alors certains diront oui, mais c'est du 49-3. Oui. D'accord, mais il y a quand même eu une motion de censure qui a été rejetée par le Parlement. Donc le Parlement a tranché et il veut cette loi. Donc à partir de ce moment-là, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Alors bon, il y a encore des allers-retours avec le Sénat, mais le gouvernement, s'il veut pas se décriviser complètement. Il doit aller jusqu'au bout.
Il doit aller jusqu'au bout
oui. et faire cesser ces agissements parce que certains sont illégaux. Hein. Donc il y a des fonctionnaires là, qui font grève. Vous savez qu'en France, droit de grève des fonctionnaires, c'est un peu, c'est une tolérance. Hein. C'est pas vraiment complètement dans les textes puisqu'ils ont l'emploi à vie. Il y a aussi des blocages qui sont à la limite de la légalité. Donc il faut faire respecter la loi, débloquer les réserves stratégiques pour alimenter les dépôts de carburant. Elles sont là pour ça. On peut tenir 3 mois. Mmh. Donc on va juger le gouvernement sur des actes.
Oui. Alors on l'a constaté en faisant le plein ces dernières heures, le prix de l'essence a augmenté. René Girmas, est-ce que les stations-service profitent de cette pénurie pour augmenter les prix ?
Alors voici le résultat de ma petite enquête. Sur le terrain, une station-service d'une petite compagnie, la plus petite compagnie française, en ville, le gasoil est à 1,29€. Station-service d'un hypermarché, hier le gasoil était à 1,11€, aujourd'hui plus de centimes, 1,13€. La pénurie profite visiblement à tout le monde, aux compagnies et aux pompistes. Le premier principe économique, vous savez, c'est le suivant. Tout ce qui est rare est cher, et bien c'est vérifié. Alors tout le monde aussi a un bel alibi, le prix du baril remonte, donc le prix à la pompe augmente aussi. Et c'est vrai, au plus bas, souvenez-vous, le prix du baril était descendu à $36, nous avions le gasoil autour de 1€. Le baril était cet après-midi $48, 36, 48, vous voyez le bon. À noter que lorsque nous prenons 10 centimes d'augmentation, 6 à 7 centimes vont quand même dans les caisses de l'État.
Merci René.
Sud Radio, Cyril Brioulet.
Le grand show de l'info.
Avec aujourd'hui Charles Bec, BD pour Charnellement de France, écrit avec Benoît Dumoulin aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Vous affirmez que la laïcité s'est retournée contre la culture qu'il a fait naître, Charles Bec, BD. Est-ce qu'il faut faire évoluer aujourd'hui en France cette notion de laïcité ?
Mais non, elle doit rester ce qu'elle a toujours été depuis des siècles, c'est-à-dire la neutralité de l'État vis-à-vis du fait religieux. Mais elle ne doit pas être une interdiction d'exprimer son sentiment religieux dans l'espace public. Et c'est là le piège dans lequel tombe un certain nombre de responsables politiques et qui m'ont poussé à écrire ce livre parce que vous comprenez, ce qui est sûr, c'est chacun d'entre nous, on va mourir. Ok. Mm-hmm. Certains trouvent, sont persuadés qu'il n'y aura rien après. D'autres pensent qu'il va y avoir quelque chose. Et on sent bien que cette problématique est une problématique assez fondamentale et tellement liée à notre être au plus profond de nous-mêmes. Donc interdire aux personnes, à tous les Français, à toutes les personnes résidant en France d'avoir des idées assez précises sur ce sujet, elle me paraît complètement fou. Et c'est pourtant ce vers quoi on semble aller. Alors moi, je dis stop. Parallèlement, comme je le disais tout à l'heure, on peut pas non plus se contenter du vivre ensemble actuel où on dit, ben voilà, la France, c'est un pays, un territoire où les gens vivent ensemble, ils partagent un certain nombre de règles, de lois, mais c'est pas ça non ouais. plus.
Je reviens à la laïcité, vous écrivez, vous la comparez à une idole tyrannique chassant toute dimension religieuse de l'espace public pour la cantonner au strict domaine de la vie privée. C'est un peu exagéré.
C'est la tentation que certains ont. C'est le laïcisme, le laïcardisme. Mais vous savez, au début du XXe siècle, en 1905, ça a été une bataille féroce. Et il y avait une volonté d'éradiquer tout
signe religieux.
Tout le christianisme de la société. Bon, on est arrivé à un compromis. Et je crois que la laïcité, telle que la laïcité apaisée qui est simplement la neutralité de l'État, c'est que chacun puisse exercer son culte librement et que l'État, en revanche, lui, il est neutre religieusement, me paraît, une façon harmonieuse d'envisager ce sujet.
L'an dernier, il y avait eu des actions de justice contre des crèches dans l'espace public pour Noël. Ça vous avait choqué ?
Ben voilà, typiquement. Alors c'est une vision un peu très juridique et laïcarde des choses. C'est-à-dire que il y a des traditions dans notre pays. On n'est pas non plus. La France n'est pas une page blanche et elle n'a pas été créée en 1789 ni même en 1905. Il y a des traditions séculaires dans ce beau pays de France et puis donc dans certaines régions, il y a ces crèches qu'on expose dans des lieux publics, dans les églises, mais aussi dans des lieux publics, dans des supermarchés, dans des mairies. Et puis alors donc il va y avoir à ce moment-là un certain nombre de personnes, franchement, qui sont minoritaires. ouvert qui vont dire mais non, mais c'est une atteinte à la laïcité, quelle horreur. Mais stop, on n'est pas juste des marchandises, on n'est pas juste dans l'avoir et dans le commerce, on n'a pas une existence purement commerçante. Il y a autre chose dans la vie, il n'y a pas que l'avoir, il y a l'être. Et donc c'est une utopie dangereuse que je rejette.
Charles Becbédé, invité aujourd'hui du Grand Show de l'Info, Charnellement de France, c'est votre nouveau livre. On va continuer à feuilleter ensemble l'actualité du jour. Et 6 mois après les attentats de Paris, des centaines de familles de victimes qui sont reçues par les juges chargés de l'enquête depuis le début de l'après-midi. Ça se passe à l'école militaire de Paris. Ces rencontres vont durer 3 jours. Nous sommes avec Emmanuel Domenac, vice-président de l'association 13 novembre Fraternité et Vérité. Bonsoir Emmanuel Domenac.
Bonsoir.
Ce sont les familles qui ont souhaité cette rencontre ou ce sont les juges qui l'ont proposé ?
Alors c'est d'abord une obligation légale. Le code de procédure pénale prévoit que les parties civiles doivent être informées régulièrement. Après, ça répondait vraiment aussi à un souhait des familles de rencontrer rapidement les juges pour avoir des informations objectives venant de la justice elle-même et pas des médias. Même si les médias jouent très bien leur rôle d'information, il y a un besoin d'échanger avec les juges eux-mêmes.
Qu'attendent justement concrètement ces familles ?
Déjà très concrètement, les familles de victimes qui ont perdu un proche attendent tout bêtement les autopsies. Ça fait 6 mois qu'on les attend et qu'elles n'ont toujours pas été versées au dossier. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions à ce sujet. Elles attendent aussi des réponses concrètes sur l'étendue de l'enquête. On sait très bien que les juges ne peuvent pas dévoiler des informations qui sont soumises au secret de l'instruction, mais peut-être nous dire jusqu'où va aller l'enquête. Est-ce qu'ils vont, par exemple, se renseigner sur les commanditaires, sur le pourquoi du Bataclan, sur pourquoi et comment ils ont pu se balader pendant 6 mois avant les attentats dans toute l'Europe sans être inquiétés. Voilà, ce genre de questions. Et puis aussi, malheureusement, des détails assez précis sur le déroulement des attaques. Mmh.
Vous avez pu avoir déjà des échos des premières heures de ces rencontres, de ce qui a pu se dire cet après-midi ?
Alors très rapidement, parce que c'est en cours là, en ce moment, je suis juste à côté, il y a 2 heures, visiblement le juge d'instruction a parlé pendant 2 heures. Il a présenté visiblement un peu ce qui est en cours, mais j'ai pas beaucoup d'informations malheureusement sur le contenu exact de ce qui s'est dit, puisque ça fait plus de 3 heures maintenant qu'ils sont réunis et c'est parti pour durer encore une demi-heure, une heure.
Et c'est une réunion à huis clos. Une avocate des familles de victimes, Maître Samia Maktouf, dit que les victimes se sentent abandonnées. Qu'est-ce qu'elles ressentent, ces familles ? Qu'est-ce qu'elles vous disent, vous, association ?
Alors, effectivement, il y a un grand problème de présence de l'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État ne joue pas son rôle auprès des victimes, n'informe pas les victimes, ne les accompagne pas. Donc c'est très très difficile. Donc effectivement, il y a un sentiment d'abandon, puisque l'État laisse le travail aux associations. Les associations font un travail exceptionnel, je pense à la FENVAC, l'INAVEM. Mais ça ne suffit pas. À un moment, les gens ont besoin d'État, de réponses de l'État, et il n'y en a pas. Je vous donne un exemple tout bête. Il n'y a toujours pas de site internet d'information pour les victimes. En Belgique, il y en a eu un mois après les attentats de Bruxelles. Nous, ça fait 6 mois, il n'y a toujours rien. Mmh. Et c'est très, très difficile. Donc il y a un sentiment d'abandon, sentiment de manque d'information. Et du coup, il y a une sorte de colère qui monte parce qu'en plus, on n'entend pas de repentir, on n'entend pas d'excuses de la part de l'État, pas de reconnaissance d'erreur. Donc ça, c'est très, très difficile parce que quand vous entendez Bernard Cazeneuve se féliciter de la coopération franco-belge, vous entendez Bernard Cazeneuve dire que les services de renseignement fonctionnent très bien alors que l'année 2015 a été source de nombreux attentats, c'est très difficile à accepter pour les familles. Mais par contre, pour l'instant, les familles n'ont pas de ressentiment et je pense qu'elles n'en auront pas vis-à-vis de la justice qui, elle, continue son travail.
Ouais. Vous l'avez dit, un juge est par définition peu bavard, il y a le secret de l'instruction. Est-ce que des familles qui avaient espoir dans ces rencontres ne risquent-elles pas de sortir un peu déçues, voire frustrées ?
C'est un risque d'autant plus que c'est la première fois que les familles vont se retrouver aussi nombreuses depuis le 13 novembre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, sont reçues les victimes des terrasses et du Stade de France. Et demain, ce sera une partie du Bataclan et après-demain, une autre partie du Bataclan dont je fais partie jeudi. Et si vous voulez, c'est la première fois qu'on va se retrouver tous ensemble. Donc forcément, il y a énormément d'attentes et c'est la première fois que certaines familles vont s'adresser directement à un représentant de l'État. Et donc oui, il y a énormément d'attentes, il y a tellement peu d'État, un abandon de l'État que forcément, pour cette première rencontre, il va y avoir beaucoup d'attentes. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, là, on est là pour accompagner les familles de victimes à la sortie, pour qu'on puisse échanger sur les choses et qu'on puisse apporter certaines réponses. Après, on fait confiance aussi au juge. Je sais, le juge a parlé pendant 2 heures avant de laisser place aux questions. Ça veut dire quand même qu'ils ont quand même donné des informations et ils vont essayer d'apporter certaines réponses. Après, bien sûr, le juge, voilà, il tiendra aux éléments qu'il peut donner.
À ce qu'il peut dire, évidemment. Merci beaucoup, voilà. Emmanuel Domenac. Vous êtes vice-président de l'association 13 novembre, Fraternité et Vérité. Charles Becbédé, on l'a entendu, hein, rencontrer les juges pour ces familles, c'est important. Elles ont beaucoup de reproches à faire à l'État. En même temps, la France n'a jamais connu d'attentats aussi importants.
Je pense que c'est les familles, mais c'est aussi certaines victimes qui ont survécu, des blessés pour ceux qui ont pu sortir de l'hôpital. Donc c'est un rendez-vous en effet extrêmement important. D'ailleurs, je trouve qu'on parle plus beaucoup de ces blessés, de ces victimes encore vivantes, dont la vie est définitivement abîmée dans d'atroces circonstances. Et puis, de façon générale, je trouve qu'on parle plus beaucoup de ces attentats. Alors, heureusement qu'il y a cet événement. On a un peu l'impression que c'est derrière nous, et puis tout va très bien, Madame la Marquise, alors qu'on sait qu'il va y en avoir d'autres, malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pas du tout mis en place ce qu'il faudrait pour défendre les Français, avec un Premier ministre qui l'a même avoué, qui le dit régulièrement. Il va y avoir d'autres attentats, mais moi je comprends pas, mais dans ces cas-là, qu'il démissionne. C'est vraiment honteux d'être à la tête des forces de l'ordre et de dire cela. Mais on doit tout faire pour empêcher qu'il y ait des actes, et on ne doit pas déjà s'avouer vaincu. Donc il y a des choses qu'on peut faire, franchement, et que d'autres pays ont fait. Ça va d'une fermeture temporaire des frontières, mais vraiment, et c'est possible, ça a été fait dans le passé. Je ne vois pas pourquoi on nous dit c'est impossible avec la mondialisation, etc.
Ça s'est fait depuis les attentats.
C'était des contrôles, vous le savez très bien. C'était pas une vraie fermeture.
C'est pas une fermeture, non. Des contrôles très renforcés.
Et d'ailleurs, Abdeslam a pu passer les frontières. Bon, là, en l'occurrence, c'était quelques heures après l'attentat, donc ça peut se comprendre. Mais une vraie fermeture. Et envoyer l'armée dans les Molenbeek sur Seine. Vous avez vu la couverture
du Figaro magazine ce week-end.
Attendez, mais on sait qu'il y a un certain nombre de territoires perdus et on ne fait rien. Donc en Belgique comme en France, il est urgent d'agir. C'est peut-être pas l'état d'urgence qu'il fallait instaurer, c'est l'état de siège dans un certain nombre de territoires très localisés.
Charles Becbédé, invité du Grand Show de l'Info, à tout de suite après la pub sur Sud Radio.
Sud Radio, le Grand Show de l'Info.
Cyril Brioulet.
Avec Charles Becbédé aujourd'hui pour Charnellement de France aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. C'est quoi être français aujourd'hui, Charles Becbédé ?
Ah, ben écoutez, j'ai pas mal réfléchi au sujet, en effet. Il y a des invariants. On retrouve tout au long de notre histoire, je trouve qu'il y a trois caractéristiques que je peux isoler et qui font l'âme française. Alors, c'est pas tout à fait la réponse à votre question, hein, mais c'est, je crois, d'abord une conviction très forte qu'il faut respecter la dignité de la personne, et de toute personne, bien sûr, homme, femme, enfant. Et ça, c'est quelque chose de très prégnant et qui nous vient, il faut le dire, du christianisme. Et il y a une deuxième notion, c'est la reconnaissance de la grâce, de la féminité. Ça, c'est quelque chose qui est... J'en parle pas mal dans... Il y a quelques belles pages là-dessus. Ça vient de très loin. Ça vient notamment du haut Moyen-Âge, où de la galanterie, la courtoisie, l'hommage. C'est là que le mot dame remplace le mot femme. Et c'est une femme dont on voit le visage. C'est quelque chose qui est très aussi... qui traverse les siècles et qui fait... vous savez, l'expression « la galanterie française », c'est quelque chose que le monde entier utilise pour quand on parle de la France. Alors, c'est vrai que s'ils allaient plus récemment dans nos villes et nos villages, ils seraient un petit peu déçus. Mais bon. Et puis, quel serait ce troisième élément ? C'est la notion de l'espérance, c'est-à-dire que du temps fléché. Alors ça, c'est un peu philosophique, c'est-à-dire qu'on croit que les choses vont être meilleures demain qu'aujourd'hui. C'est pas toujours le cas dans toutes les civilisations et dans tous les pays du monde où on a une vision parfois du temps plus circulaire. Et nous, on croit encore que pas tous les jours dans les sondages, hein, mais on croit qu'il y a une espérance, qu'on peut avoir un espoir, une espérance sur l'avenir.
Vous avez fait allusion il y a quelques instants aux racines chrétiennes de la France. Il y a eu débat dans la société il y a quelques mois là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord sur ces racines chrétiennes.
Oui, il y a même Moscovici qui récemment a dit « Je ne crois pas aux racines chrétiennes ». Mais bon, on ne lui demande pas de croire. C'est un fait, quoi. C'est historique. Moi, j'ai plein d'amis français de sensibilité et de culture musulmane. Ils sont les premiers à dire « Bah, évidemment !»
Mais c'est une réalité. C'est un besoin de se raccrocher à ces racines.
La France est de tradition chrétienne, enfin, et de culture chrétienne. Oui, c'est important. Parce qu'à force de le nier, d'être dans le déni de soi-même, on ne peut pas faire aimer la France aux Français, quelle que soit leur sensibilité, leur religion, leur origine. Et c'est comme une personne. Vous savez, quand une personne ne s'aime pas, en général, elle ne va pas bien et elle ne peut pas se projeter dans l'avenir. Eh bien, une nation, c'est pareil. Il est important de s'aimer et de s'accepter tel que nous sommes. Et pour cela, il faut reconnaître nos racines, qui sont multiples, mais dans lesquelles le christianisme a joué un grand rôle.
Pourquoi vous parliez tout à l'heure de refonder la République. Comment fait pour refonder la République?
Alors, voilà, on y vient, mais justement, c'est le premier acte, c'est à part la sémantique où on transforme la République française en République de France pour marquer le coup, on reconnaît les racines chrétiennes. Et donc, dans l'article 1 de la Constitution, qui dit que la France est une République une et indivisible, laïque, sociale, démocratique, on rajoute deux traditions chrétiennes. Ça a l'air de rien, c'est donc un fait historique, mais ça va permettre de fonder en droit la prééminence du fait culturel chrétien. Je dis pas que il ne s'agit pas de transformer la France en un État catholique, loin de moi cette idée, mais c'est pour pouvoir s'opposer à un certain nombre de traditions qui nous sont étrangères et qui envahissent l'espace public et qui sont des traditions culturelles qui viennent d'autres cultures et qui ne sont pas la nôtre. Et donc,
on parlait clairement des femmes entièrement voilées sur l'espace public, c'est ça ?
Il existe dans l'islam en effet un certain nombre de prescriptions rituelles qui sont plus de l'ordre de la culture et non du culte. Et à Rome, fait comme les Romains. Donc c'est lorsque ces personnes se vêtissent de cette façon et que c'est pas nos habitudes, c'est pas nos traditions, c'est pas nos cultures, mais qu'elles le font, je dirais naïvement et sans pacifiquement pour aller à la mosquée, par exemple, j'ai pas de problème. Mais il faudra peut-être faire preuve d'un peu de pédagogie pour expliquer que c'est pas tout à fait nos traditions et notre mode de vie. Mais en revanche, le problème, c'est Mollet de Benck sur scène. C'est que quand il y en a qui, en nombre, le font de façon délibérée, en l'imposant souvent aux femmes et dans une démarche conquérante, je crois qu'il faut se montrer intraitable. Et là, c'est l'intention qui prime. Si le voile est vecteur d'une idéologie qui souhaite imposer la charia, il faudra agir fermement.
Les mesures culturelles et identitaires devront faire partie des programmes des candidats en 2017 ?
Je pense que la question culturelle est la plus importante et la plus fondamentale, et donc en particulier en 2017, c'est clair, parce que les questions économiques et sociales, bien sûr, elles sont importantes. On a du chômage, de la dette, du déficit, etc. Mais c'est secondaire, parce que si on ne traite pas le défi culturel et donc cette grande question culturelle, la confiance ne reviendra jamais. Et on aurait beau faire toutes les réformes économiques et sociales les plus intelligentes, et donc c'est vrai que là, actuellement, chez les Républicains, ils semblent ouvrir les yeux sur ce front-là, mais en revanche, ils disent rien sur la vraie question, qui est la question culturelle. Et donc, la confiance, si c'est eux qui sont, si c'est l'un d'entre eux qui est élu, la confiance ne reviendra jamais. Et donc, il n'y aura pas de croissance. Donc, tout ça pour rien.
Merci beaucoup, Charles Becbédé. Charnellement de France, écrit avec Benoît Dumoulin. Votre nouveau livre aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Merci à vous.